Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Je ne me tairai pas les mots d'Amine Kessassi dans une tribune au Monde ce matin au lendemain des obsèques de son frère, alors qu'Emmanuel Macron cible lui les consommateurs de drogue. Une semaine après sa libération, Boualem Sansal, reçu en catimini hier à l'Elysée sans presse ni caméra, avec en toile de fond la volonté d'apaiser les relations entre Paris et Alger et les 25 recommandations de la défenseure des droits pour une justice des mineurs mieux adaptée.
Les premiers mots d'Amine Kessassi depuis la mort de son frère.
Engagé contre le trafic de drogue depuis 2020, après un règlement de compte dans lequel son grand frère Brahim avait été tué, c'est au lendemain des obsèques de son autre frère, Mehdi, abattu jeudi dernier qu'Amine Kessassi prend la parole ce matin dans une tribune au Monde. Il répond à ce que les autorités appellent un crime d'avertissement et assure au Maoug qu'il ne se taira pas.
Oui, parce que la mort de mon frère ne doit pas être recouverte par les sables de l'indifférence et de l'oubli. Je ferai face à ces assassins, écrit-il dans cette tribune, empreinte de révolte et d'une grande émotion. Je parle depuis l'épicentre de ma souffrance pour demander justice. Mehdi est mort pour rien, lâche Amine Kessassi, dénonçant au passage la violence du narcotrafic, son emprise et la lâcheté des commanditaires des crimes. Nous comptons nos morts, mais que fait l'État, s'interroge-t-il. J'entends les belles paroles, les discours soudain volontaires, dit Amine Kessassi, avant de pointer du doigt les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées. Face à un tel ennemi, l'État doit comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Il est temps d'agir, assène-t-il, de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter la police des moyens dont elle a besoin, de soutenir réellement les familles des victimes, avant de conclure que notre révolte face au narcotrafic soit durable et collective. Courage, on ne peut pas tuer tout un peuple.
Et la réponse de l'État ce matin, c'est la volonté d'amplifier la lutte contre le narco-banditisme sur le même modèle que la lutte contre le terrorisme. Le sujet sera au cœur de la visite de Laurent Nunez et Gérald Darmanin demain à Marseille, les ministres de l'Intérieur et de la Justice en éclaireur avant un déplacement d'Emmanuel Macron, mi-décembre dans la ville. Le chef de l'État a présidé une réunion sur le sujet hier à l'Élysée. Il s'est aussi exprimé sur la responsabilité des consommateurs de stupéfiants.
S'il y a du trafic, s'il y a des enfants qui se sont tués, s'il y a des réseaux de criminalité organisée qui prospèrent, c'est qu'à la fin, il doit y avoir des gens qui achètent de la drogue. Et je voudrais que chacun dans nos pays ait bien le sens des responsabilités. Acheter de la cocaïne, du cannabis, ça n'est pas simplement un plaisir qu'on peut s'offrir, il est déjà interdit. C'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée. Il faut que chacun en soit conscient dans nos pays aussi.
Emmanuel Macron, qui s'est dit par ailleurs disponible pour un échange avec son homologue algérien dans l'idée d'apaiser les relations entre Paris et Alger. Il recevait Boualem Sansal hier, Emmanuel Macron. Et c'est en toute discrétion et l'intervention que l'écrivain franco-algérien libéré la semaine dernière par Alger a été reçu à l'Élysée.
Oui, comme si les autorités préféraient la jouer profil bas. Boualem Sansal a certes été immédiatement reçu par le président, mais c'est sans aucune caméra, sans presse, que l'écrivain franco-algérien a franchi la porte du palais de l'Élysée. Emmanuel Macron décrit l'auteur en bonne forme, mais depuis, très peu d'informations filtrent sur son arrivée en France. Il a un très bon moral, mais c'est un homme fatigué, explique-t-on dans son comité de soutien. Boualem Sansal devrait d'ailleurs subir de nouveaux examens. Pour l'instant, pas de prise de parole envisagée. La carte de la discrétion pour se reposer, mais aussi parce que se joue en toile de fond la tentative de réconciliation entre la France et l'Algérie et la libération du journaliste français Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie et dont le procès en appel aura lieu le 3 décembre prochain.
Des enfants bafoués, une justice inadaptée, c'est ce que dénonce la défenseure des droits dans un rapport publié ce matin. Claire Hédon milite pour un meilleur encadrement des plus jeunes face à une justice qu'elle juge trop souvent punitive et inefficace. Les auteurs de ce rapport, Alfred Orange, réclament 25 recommandations.
Dans ce rapport, la défenseure des droits pose le constat. Les faits d'extrême violence augmentent chez les moins de 16 ans. Le nombre et les durées d'incarcération aussi. Mais l'enfermement n'est pas une réponse efficace, alertent les auteurs de ce rapport qui militent pour des mesures éducatives et morales. Aujourd'hui, seulement 4% des sanctions visant des mineurs sont des décisions à vertu éducative. Alors, pour mieux protéger ces mineurs, la défenseure des droits demande à inscrire dans la loi le principe de non-responsabilité l'incapacité pénale des moins de 13 ans et demande à ce que tout le parcours pénal soit repensé pour les mineurs. Fouilles adaptées, droit à l'éducation en détention et prévention de la récidive doivent être des priorités.
Des mineurs parfois de 14, 12 ou 10 ans impliqués dans le trafic de drogue, des violences ou même des viols. Alors précisément, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut réformer cette justice des mineurs ? Oui, c'est ce que dit la magistrate Béatrice Brugère. Elle sera dans ce studio juste après le journal. Il faut la réformer, cette justice, mais il faut surtout que les peines soient appliquées et appliquées beaucoup plus rapidement. Voilà ce qu'elle nous dira.
Mauvaise surprise pour les propriétaires de 7,4 millions de logements. Ils vont subir une hausse de la taxe foncière l'an prochain, 63 euros en moyenne, annonce de Bercy hier, conséquence d'une mise à jour des fichiers de logements, une mesure qui pourrait rapporter 446 millions d'euros aux communes et aux départements. Des économies, c'est justement ce que souhaite le gouvernement alors que le budget est débattu en ce moment au Parlement. L'examen du projet financier se poursuit à l'Assemblée nationale. Les sénateurs s'attaquent au budget de la Sécu aujourd'hui. Attention, si vous n'avez pas encore mis le nez dehors aujourd'hui, pensez à bien vous couvrir. Le froid s'installe sur le pays avec de nombreuses gelées, moins 5 du côté d'Aurillac, moins 3 à Dijon, des températures négatives également du côté de la Ricamarie, c'est près de Saint-Étienne dans la Loire. Reportage Vincent Chevalier.
Le soleil du jour est trompeur. Les températures descendent en flèche dans les rues de Saint-Étienne.
C'est vraiment glacial, ouais.
Pas facile à vivre pour Dania, une étudiante.
Je suis bien équipée, mais c'est dur. C'est brutal, je trouve.
D'autres préfèrent ne pas se laisser abattre, comme Sylvie et Joël, deux amis retraités.
J'aime bien ce froid, moi. C'est vivifiant.
La température est négative, mais le moral est positif.
Dans sa petite cabane, Michael tente de résister en mitouflé sous plusieurs couches de vêtements. Ce gérant de snack vient tout juste d'adapter ses menus.
L'hiver, notre produit phare, c'est les churros. On vend plus de crêpes, de gaufres, même avec les chocolats chauds.
Une baisse des températures, pas forcément mauvaise pour la santé.
Comme on dit, oui, j'ai attrapé froid ou j'ai pris un coup de froid. C'est pas le froid qui va nous rendre malade.
Anne Plagnard est médecin généraliste.
On va se tenir plus à l'intérieur, au chaud, plus en contact humain. On va moins aérer aussi les maisons et un risque de contracter plus facilement les virus qui circulent à ce moment-là.
Les autorités recommandent également la vaccination, notamment pour la grippe et le Covid-19.
Le froid, les premiers flocons qui vont donner envie aux enfants d'écrire leur lettre au Père Noël. Le secrétariat ouvre aujourd'hui à la plume cette année l'explorateur Nicolas Vanier. Pas de cadeau pour les Bleus du tennis, battu en quart de finale de Coupe Davis hier soir, battu par la Belgique 2-0. Et le tournant de cette défaite, c'est ce coup raté, improbable demi-volée de Corentin Moutet entre les jambes, tenté et raté en fin de deuxième set.
Quand je rate ce coup et que à la fin je perds le match, je me dis que je suis un clown, que j'aurais dû faire peut-être quelque chose d'autre. Surtout quand il y a des collègues sur le côté qui croient en moi, qui me font confiance. C'est assez frais. J'ai fini le match il y a 20 minutes. C'est très dur d'être lucide face à la situation, mais c'est sûr que de claquer la volée aurait été un choix plus judicieux à ce moment-là.
Puis la liste des qualifiés pour la Coupe du Monde nord-américaine s'est allongée cette nuit avec la qualification d'Haïti, c'est une première, et de Curaçao, petite île caribéenne de 160 000 habitants.
C'était le journal de Thibaut Texer.